Ça brasse et ça bouge pas mal dans plusieurs négociations et situations syndicales. C'est pas toujours évident de suivre tous les détails et ce qui se passe dans ces négos et dans ces situations syndicales, mais ça donne bien. À Rage Against, le matin, on a la personne parfaite pour nous expliquer ce qui se passe dans ces situations-là. Il est expert en négociations syndicales. Il est aussi conseiller stratégique pour Ryan Affaires publiques et communications. Marc Rangé est au bout du fil. Bon matin, Marc.
Hey, bonjour. Très content d'être avec vous encore.
Toujours un plaisir, Marc. Tu le sais, puis je disais d'entrée de jeu que ça bouge pas mal là, dans plusieurs situations syndicales. Peut-être commencer avec une bonne nouvelle, surtout pour les voyageurs, parce qu'on vient d'éviter un lockout de 72 heures à WestJet avec une entente de principe qui, pour plusieurs qui voulaient peut-être voyager le monde, aller dans le sud, va sauver peut-être quelques maux de tête.
Oui, bien, on sait que ça brasse pas mal dans le transport aérien, mais comme tu l'as dit d'entrée de jeu, dans bien des secteurs, parce que évidemment, aux tables de négociation, les gens sont en demande compte tenu du contexte. Fait que WestJet, c'était pas différent non plus. Puis, mais ce qui était un peu de particulier, c'est que dans le fond, là, c'est l'employeur qui avait menacé de faire un lockout et de dire, ben moi, là, j'envoie mon avis 3 jours, puis là, si ça se règle pas, ben ce sera un lockout. Marquez bien que du côté syndical, on s'est arrêté vers la grève aussi. Mais c'est assez rare qu'on a des vrais arrêts de travail dans le transport aérien. C'est surtout des menaces de recourir. Puis il y a tellement d'argent en jeu. Puis pas juste de l'argent. C'est vraiment parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont des réservations. Donc ça bouscule les vies. Ça met une pression énorme là, sur les parties là, de trouver un règlement. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, ils n'ont pas eu besoin non plus de l'intervention d'un tiers. Fait que, donc, ça s'est quand même ça s'est réglé. Fait que c'est une bonne chose.
Marc, quand est-ce qu'un employeur décide d'aller en lockout puis qu'un syndicat décide d'aller en grève, tu sais, c'est quoi la différence, autrement dit, dans la façon de vouloir amener de la pression à l'autre partie?
Bien, un lockout, c'est plus rare, mais on le voit au port de Québec. Ouais. Là, il y en a un qui dure depuis, je pense, c'est plus de 600 jours. Et où le recours à la grève, c'est vraiment, en principe, c'est le dernier recours. C'est que tu as essayé toute autre chose avant, puis tu en es rendu à dire, ben là, je m'en vais en grève, mais non seulement ça, mais ça peut être une grève généralisée. Dans le cas de la FAS, c'est très, très rare qu'on voit ça. Puis si je prends l'autre bout du spectre, il y a un lockout au Québec qui dure depuis maintenant, le fin octobre 2023, c'est Vidéotron à Gatineau. Mm-hmm. C'est principalement des gens qui sont dans des centres d'appel. Et donc, ça, c'est dès le départ que le lockout a été mis dans ce dossier-là. Puis ça, c'est rare aussi parce que les enjeux étaient quand même assez ciblés. Mais c'est des mesures extrêmes. Et comme syndicat, moi, je sais que tout le temps que j'ai été à la tête mon organisation syndicale, puis avant ça, avant d'amener les gens en grève, c'était vraiment que j'avais tout essayé. Puis même là, d'aller en grève, je ciblais davantage des journées plutôt que d'aller sur une grève générale limitée ou sur plusieurs jours de grève. Fait que c'est un outil ultime dans les deux cas parce que ça met une pression qui est formidable. Le lockout fait aussi très mal. Hein. Souvent, les gens ne l'ont pas choisi. Puis l'employeur peut se sentir en position de force puis dire, ben moi, j'ai été au bout puis c'est pas vrai. Fait que là, je menace de faire un lockout pour dire, ben ça durera le temps que ça durera. Mais c'est des moyens qui doivent être utilisés avec parcimonie, parce que moi, le premier critère, j'ai toujours eu le souci de pas mettre la sécurité financière des membres en danger, okay. Donc d'avoir ça en tête quand tu prends des décisions de mobilisation.
Marc, autre dossier très chaud, on en parle beaucoup depuis une semaine, la FAE qui conteste la loi sur la laïcité, alors que 77 % de leurs membres sont en faveur de cette loi-là. Comment t'expliques ça et qu'est-ce que tu penses de cette décision-là?
Ben, ça, c'est la première fois que j'ai l'occasion de commenter. Là. Et puis, j'essaie de me faire une tête un peu autour de ça. Mais, à la base, j'ai de la misère avec les explications qui sont données par la FAE. De dire que nous autres, on avait pris une décision qui remontait à 2013. Puis là, roule sur cette consultation-là qu'ils avaient fait auprès de leurs membres pour pouvoir dire dans un autre dossier, puis dire finalement, ben on va contester l'utilisation de la clause dérogatoire, puis là, suite à l'adoption de la loi 21 aussi, on s'en va tout le long, puis on s'en va jusqu'en Cour suprême du Canada. Quand une organisation syndicale challenge, puis particulièrement ici, on sait qu'il y a quand même un fort soutien populaire à cette loi-là, quand puis là, de aussi d'aller challenger l'application de la la clause dérogatoire. Le Québec, historiquement, s'en est servi pour protéger son caractère distinct à bien des égards. C'est pas une décision que tu dois prendre à la légère. Puis normalement, les organisations syndicales vont se parler entre elles. Il y a eu des causes dans le passé, l'équité salariale, où les organisations syndicales se sont concertées et là disent, OK, c'est dans l'intérêt des membres, on y va, mais en même temps, c'est des causes qui coûtent très cher. Hein? Mm-hmm. Fait que quand les syndicats se mettent ensemble, ben, si tu es 8 organisations syndicales, comme ça, dans certains dossiers qui touchaient l'équité salariale, tu partages les coûts en 8, c'est au bénéfice d'une grande majorité de tes membres, c'est des principes qui sont défendus, les gens ne remettent pas ça en question. Ici, là où je suis surpris, c'est que la FAE aurait dû consulter les autres organisations syndicales, voire au-delà de ce cas-là en particulier, puis leurs membres aussi, là, mais dire, y a-t-il moyen qu'on agisse ensemble? Puis peut-être les autres organisations auraient dit non. À ce moment-ci, nous autres, on n'ira pas challenger jusqu'en Cour suprême l'application des clauses, de la clause dérogatoire, parce que pour l'instant, ça n'a pas fait mal à nos membres. Mm-hmm. Si jamais, à un moment donné, le gouvernement s'en sert, comme en Ontario, pour enlever le droit de grève ou pour imposer des conditions de travail puis enlever le droit de contestation, là, tu as une motivation pour aller challenger la clause dérogatoire pour le Québec. Mais dans ce cas-ci, je trouve que c'est une décision. Je ne sais pas si derrière des porte-closes, ils ont consulté d'autres organisations syndicales, mais moi, je suis obligé de voir que c'est la seule organisation syndicale qui l'a fait. Alors, je trouve ça téméraire. Puis c'est beau de dire, ben c'est parce qu'on a des membres qui étaient lésés. Écoute, là, c'est sûr qu'il y a toujours des membres qui sont lésés en quelque part par des décisions. Mais on s'entend-tu que dans ce cas-ci, c'était une très petite minorité de leurs membres, ouais. Très petite minorité. Puis il y a d'autres façons de pouvoir agir dans ces cas-là. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était une décision qui était téméraire. Je comprends pourquoi c'est remis en cause. Puis en plus, d'aller contester l'utilisation pour le recours à clause dérogatoire, c'est d'avoir, à mon avis, une visière très étroite par rapport à l'ensemble des impacts que ça pourrait avoir.
Marc, c'est pas la première fois que la FAE fait cavalier seul. On n'a qu'à penser aux dernières négociations. On est parti en grève générale illimitée alors que le Front commun n'était pas rendu là. Est-ce qu'on aurait un trop gros égo du côté de la FAE? Est-ce que Mélanie Hubert est en train de perdre le contrôle puis que sa tête va être mise à prix bientôt à la tête de la FAE?
Je ne sais pas si c'est un trop gros écho, mais à force de vouloir se démarquer des autres, et ça, c'est ma lecture, là. À force de vouloir se démarquer des autres, puis de dire, ben nous, on fait les affaires différemment, puis nous, c'était la grève générale limitée dès le départ, nous, on va aller challenger la clause dérogatoire, nous, on va faire ceci ou cela, je suis pas sûr que c'est une bonne vision, puis des bonnes orientations, puis je comprends les membres de se poser des questions, puis de dire à un moment donné, on peut-tu avoir davantage de consultations pour être capable de prendre des décisions ensemble? Moi, j'ai parlé récemment à une des leaders de la FAE, puis elle me répétait qu'au niveau de la grève générale limitée, on a proposé d'autres moyens. C'est nos gens qui ont décidé que non, ça va être la grève générale limitée dès le départ. Mais là, je lui ai rappelé à cette personne-là que le taux de participation est en bas de 10% dans cette décision-là de grève générale limitée. Ouais. Par contre, le mouvement était bien suivi. Tu sais, si je balançais les choses, mais répondre à ta question, je trouve qu'ils sont téméraires dans leurs décisions. Puis et tu peux pas travailler en vase clos dans des grands enjeux comme ceux-là. Même la grève générale limitée, ça avait des impacts sur les autres. Il faut être capable de se parler. Il faut être capable de... Le Front commun, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont concertés, ils ont été de façon graduelle. Fait que probablement que la FAE, il va avoir des grands questionnements à l'interne. Je suis surpris qu'à date, ça n'ait pas eu lieu davantage. Je sais qu'ils ont eu des discussions, mais entre autres, dans une des régions où les membres contestent aussi que le fait que, oui, on a commencé un post-mortem, ils font un sondage, mais ils nous questionnent davantage sur les moyens de visibilité qu'on a utilisés que le vrai recours à la grève généralité. Est-ce que c'était une bonne chose ou pas? Fait que, tu sais, leur capacité de faire un post-mortem, il faudrait voir aussi, là.
Marc Rangier, dans ta carrière, tu as été directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Tu penses quoi que ton ancien syndicat part en croisade contre les 3 jours obligatoires en présence au travail pour les travailleurs de l'État?
Bon, d'abord, petite nuance, parce que le Syndicat canadien de la fonction publique, d'où je viens, c'était davantage les services publics à travers tout le Canada. Okay. Donc, la santé, l'éducation. La fonction publique fédérale, c'est un autre joueur. C'est un gros joueur, mais c'est un autre joueur. Et ce que je pense là-dessus, c'est surtout que le syndicat, l'Alliance de la fonction publique, suite à la dernière négo, là, il y avait eu des grèves au fédéral, avait dit, bon, ben, on a une lettre d'entente historique sur le télétravail. Moi, j'ai été surpris de voir qu'unilatéralement, le gouvernement fédéral dit, puis j'ai vérifié, là, sans consultation, ça va passer de 2 à 3 jours par semaine, le retour au travail.
Okay.
Sur la question de fond, moi, je suis d'accord avec le travail hybride.
Oui.
On est en 2024, fait que les gens soient en partie sur les lieux du travail, c'est super important aussi pour moi, pour assurer une cohésion des milieux de travail. Ce qui me surprend là-dedans, c'est que le fédéral soit arrivé unilatéralement, alors que j'ai lu la lettre d'entente, puis ça dit que les deux parties, le syndicat doit être consulté, ça ne peut pas se faire de façon unilatérale, puis le gouvernement a quand même agi de façon unilatérale. Ce qui m'a surpris aussi, c'est que le syndicat a beaucoup tardé. Dans le fond, jusqu'à la toute fin, jusqu'à la veille de la directive rendue officielle la semaine dernière, le syndicat disait que c'était des rumeurs. Il savait très bien que c'était pas une rumeur. Là. Ouais. Tu sais, il faut vraiment être une autre planète pour penser que... Il savait que ça s'en venait. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu assumer cette décision-là. Puis moi, les jours qui ont précédé, j'ai dit où est le président national, Chris Hayward, pour être capable de prendre la parole sur la place publique, dire à ses membres, ben voici, non, le gouvernement fait fausse route, ça, on aurait dû être consulté. Puis oui, ça s'en vient. Il savait, je suis sûr qu'il savait. Fait que moi, j'en ai pas sur le fait qu'il y a une formule hybride qui soit trouvée. La manière, c'était pas comme ça qu'ils ont négocié. Et normalement, il aurait dû au moins avoir un avis formel bien avant au syndicat. Moi, je pense que le gouvernement fédéral, dans le fond, il y a eu des pressions pour le retour au centre-ville, hein, la région de la capitale nationale. On a vu tout de suite le maire de Toronto, le maire d'Ottawa qui a réagi que c'était une bonne nouvelle,
ouais.
Le premier ministre Ford qui a réagi que c'était une bonne nouvelle. Fait que je pense que le gouvernement fédéral a voulu plaire en montrant qu'on va imposer un retour à 3 jours semaine. Ce qu'on me dit en coulisses, c'est que dans les faits, là, ça ne veut pas dire que ça va être vraiment 3 jours par semaine partout,
okay.
Mais ils ont voulu calmer le jeu un peu au niveau des pressions économiques.
Marc, en terminant et rapidement, la Ville de Québec est encore en conflit dans ses bibliothèques et a envoyé une mise en demeure au président de l'École bleue, Luc Boissonneau, qui aurait demandé à ses membres de ralentir le travail par rapport aux négociations qu'il y a présentement de la nouvelle convention collective. Est-ce que la Ville de Québec établit son rapport de force à l'heure actuelle avec ces deux actions-là?
Oui, possiblement. Dans le cas des bibliothèques, on sait que c'est un syndicat haute là, qui est. Je vous avais déjà
commenté. Oui.
J'étais surpris que ce soit les tracks qui soient là, parce qu'ils sont davantage dans le commerce de détail. Fait que ça, je suis très, très surpris. Puis c'est un conflit qui aurait dû déjà être réglé. Dans le cas des cols bleus, je pense que c'est davantage. Je verrais pas ça vraiment comme un build-up, mais plus que, évidemment, la Ville a vu que le président du syndicat sur les médias internes a incité à un ralentissement de travail. Tu peux pas faire ça, c'est illégal. Fait que donc, je suis convaincu que le syndicat s'attendait à une réaction comme celle-là. Fait que simplement de corriger le tir, parce que tu ne peux pas donner un mot d'ordre officiel de ralentissement de travail. C'est d'aller à l'encontre du Code du travail. Fait que, donc, ça, c'est très, très clair. Tu veux exercer le droit de grève, tu l'exerces le droit de grève. Les leaders syndicaux, c'est sûr, dans ce contexte-là, ils ont une responsabilité. Ils ne peuvent pas faire ce type d'appel-là. Fait que c'est un rappel à l'ordre, mais dans le fond, quand ces choses-là surviennent, ben, c'est un rappel aussi que l'attention devrait être toute mise à la table de négociation.
Mm-hmm. Oui. Marc Ranger est conseiller stratégique pour Ryan Affaires publiques et communication. Il est spécialiste en négociation syndicale et ami de Reg Against le matin. Marc, merci beaucoup. Yes. Encore une fois, c'est toujours un immense plaisir.
Hey, merci à vous autres, les gars.
Il y avait beaucoup de chats à fouetter, beaucoup de dossiers à régler, mais tu nous as mis bien de la lumière sur tout ça.
Ah ben, vous êtes bien smart. Merci.
Salut, Marc.
Merci.
Salut.
Tout le temps, ouais. Vraiment apprécié d'avoir Marc Ranger avec nous dans l'émission pour son expertise, mais aussi pour sa recherche. T'sais, on le sait qu'en plus, Marc s'en va creuser, jase avec les personnes concernées, fait qu'il nous amène l'heure juste dans certaines situations syndicales.
Et j'adore son objectivité. Tu sais, dans la Ville de Québec, il dit non, il dit ça va dans le cadre du Code de travail, le président du syndicat n'a pas à dire ça. Dans le cas des employés fédéraux, écoute, le syndicat, sa responsabilité, il a dû réagir avant. L'employeur, sa responsabilité, il aurait dû négocier une nouvelle lettre d'entente avec la partie syndicale. Super objectif, les faits, puis on connaît plein de coulisses avec Marc, j'adore ça.
Connaissez-vous le Wegovy, nouveau médicament pour la perte de poids, qui est maintenant disponible depuis hier au Canada pour les patients qui en auraient besoin, là, le problème qu'ils font de l'embonpoint, de l'obésité.
On en parle comme étant un diagnostic médical d'obésité.
Bon, okay,
c'est à ce moment-là que le médecin prescrit ce médicament-là.
C'est que je me suis dit qu'en même temps, j'essaie de faire attention à mes mots et qui va l'utiliser, parce que d'après moi, tu as utilisé le bon exemple tantôt qu'il va y avoir du monde qui vont prendre des raccourcis avec ce nouveau médicament-là,
Donne-moi donc ça au lieu que je prenne soin de ma santé.
On va en jaser avec notre pharmacien Jean-Philippe Bergeron après la pause, mais tout d'abord, circule, Max.
Mais commencez par vous dire que tout ce qui est s'enligné vers les ponts, là, c'est le bordel. Ça, c'est pas une surprise. Là où c'est plus problématique, là. Capitale Ouest, ça aussi, c'est normal, mais c'est pire que d'habitude un matin avec l'accident qu'on a eu, plus la panne entre le boulevard Armand-Paris et la première avenue présentement, c'est au rouge foncé, Capitale, direction Ouest. Capitale aussi, direction Ouest, mais plus loin, là, hauteur boulevard Saint-Jacques, on a un accident dans ce coin-là, ce qui fait qu'à partir du boulevard Pierre-Bertrand, ça va re-ralentir jusque-là. Capitale, direction Est, c'est au ralenti entre le boulevard Masson et, je vous dirais, le boulevard Pierre-Bertrand aussi. Encore très au ralenti, Robert Bourassa, direction Sud, vers le boulevard Le Bourgneuf. C'est au rouge, Henri IV, direction Sud, entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest. Et comme tantôt, là, Dufresne-Montmorency, direction Ouest, avant le boulevard François-de-Laval, c'est très au rouge, voire rouge foncé présentement. En arrivant aussi plus dans le coin là, de la ville, en sautant Rivière-Saint-Charles, là aussi, il y a pas mal de rouge foncé. Peut-être vous rappeler là, incendie dans le coin de Petit Champlain. Donc là, il y a un délestage au niveau de l'électricité, donc des feux de circulation qui ne fonctionneraient toujours pas. Donc là aussi, il peut y avoir quelques problèmes.
Merci beaucoup, Max. On se retrouve dans quelques minutes.
La circulation présente